La guerre, c'est le combat des hommes. La paix, c'est le combat des idées. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'Afrique contre-attaque, votre show de leadership économique et d'échange d'idées. Nous allons débattre aujourd'hui sur les 33 stratégies africaines de la guerre. En effet, ce podcast sera grandement inspiré du livre de Robert Greene, Les 33 stratégies de la guerre, qui s'est inspiré beaucoup de l'art de la guerre, hein, qui a été écrit par un général chinois, un livre très connu, car on connaît que l'histoire de la Chine est très guerrière, hein, très martiale. Et Robert Greene, qui est un passionné d'histoire, de leadership, s'est basé sur cette expérience, mais plus encore, il allait encore plus loin, il a regardé en fait dans l'histoire, pour voir quelles étaient les sagesses, les principes que l'on pouvait tirer de plusieurs généraux et de plusieurs capitaines d'industrie et politiciens, afin de pouvoir en faire ressortir 33 stratégies qui étaient récurrentes dans l'histoire et qui étaient efficaces. Et dans cet ordre d'idées, il a écrit ce fameux livre, Les 33 stratégies de la guerre. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, car je suis ferré d'histoire, vous le savez, ce qui m'a interpellé, c'était l'absence d'exemples africains. Évidemment, il y a Hannibal de Carthage qui est pris dans le livre, si je ne me trompe pas. Il est Sélassié peut-être aussi avec l'Éthiopie. Mais vous savez, bon, quand on lit ces histoires, surtout celle d'Hannibal, il y en a encore beaucoup qui pensent qu'Hannibal n'était pas africain ou n'était pas noir, alors que les recherches archéologiques sur les ossements et sur le peuplement de ces régions montre très bien que Hannibal était un personnage noir africain. On y reviendra beaucoup plus tard peut-être, car sinon ça nous prendra du temps. Nous avons de toute façon 33 lois à explorer aujourd'hui et ce sont des détails sur lesquels nous reviendrons. Nous allons donc explorer ces 33 lois, mais avec le paradigme africain. C'est-à-dire que nous aurons des personnages africains, nous aurons des citations africaines, nous aurons des informations sur le continent, sur les stratégies de guerre qui ont été utilisé à travers l'histoire africaine. Car il faut bien se dire que le problème de l'Africain maintenant, c'est le manque de stratégie sur beaucoup de plans, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan juridique. Nous manquons de stratégie à bien des égards. Et le problème avec le mouvement de conscience africain qui s'élève maintenant, avec les réseaux sociaux, beaucoup de connaissances sont partagées, beaucoup se limitent malheureusement simplement à la mélanine des anciens Égyptiens. Ils étaient noirs. Oui, c'est très important de le dire, car c'est un travail sur l'estime de soi, c'est un travail pour contrecarrer toutes les idéologies qui ont été mises en place pour faire convaincre les gens qu'avoir la peau noire est synonyme de stupidité ou de laideur. Et beaucoup d'entre nous, même africains, supportant ces thèses en disant que les autres sont beaucoup plus développés, plus motivés. Développement, c'est un état de la matière ou d'une civilisation. C'est quelque chose qui peut naître et mourir à la fois. Nous avons parlé par exemple de la Mongolie qui était un grand empire à l'époque et qui maintenant est réduit à sa plus simple expression. Malheureusement, nous avons une lecture de l'histoire avec un grand H que par rapport à ce que nous voyons dans le présent. Et ça, c'est une grosse erreur que nous faisons. Loin de nous de vouloir être motivateur ou gourou ou je ne sais quel titre que l'on nous targuerait. Nous refutons ces appellations, nous voulons être des leaders sans titre. Mais il faut bien nous dire que ce que nous faisons ici, ce n'est simplement que lire le grand livre de la vie, l'histoire telle qu'elle est. Et sans vouloir jouer aux optimistes, nous voulons pourtant être réalistes. Et être réaliste, c'est voir l'histoire africaine dans sa nudité et voir à quel point les peuples africains ont été conquérants, ils ont été bâtisseurs, créateurs, fabricateurs, permettez-moi le terme de la civilisation. Et cette civilisation a engendré ce que nous voyons aujourd'hui. Et malheureusement, les États africains sont dans un état de prédation, sont dans un état de persécution. Et il faut bien contre-attaquer par rapport à ça. Et cette citation de Victor Hugo qui dit que la guerre, c'est le combat des hommes, mais la paix, c'est le combat des idées. Et lorsque nous disons contre-attaque, nous l'avons dit ici déjà, nous voulons en fait cette guerre des idées, ce combat d'idées, détruire les idées reçues sur les populations africaines, sur la mélanine. Et je voudrais juste une parenthèse. C'est vrai que beaucoup vont utiliser la mélanine pour dire que voilà, ça nous donne certaines propriétés plus que les autres. Bien qu'il faut éviter ce genre de débat pour ne pas tomber dans des connotations raciales, je ne veux pas dire racisme, parce que le racisme à rebours, il n'a aucun sens, parce que le racisme est un système. On ne peut pas forcément dire que parce qu'un noir a certains propos par rapport à une autre race, entre guillemets, car je n'aime pas ce mot, car il n'y a que la race humaine, et c'est du racisme. Non, le racisme est systémique, c'est un système, ce n'est pas du tout la même chose. Même racisme à rebours, ça n'a pas de sens. Il faut bien s'en tenir aux définitions et au poids des mots. En effet, lorsqu'on parle de couleur de peau, il faut aussi savoir, par exemple avec ce qui se passe maintenant avec le coronavirus, il y a des fake news, on ne sait pas, on nous dit que les populations africaines résisteraient mieux à la maladie. Nous avons besoin d'études pour pouvoir confirmer cela. Quels sont les médecins qui ont donné les rapports pour confirmer que la mélanité nous protégerait plus du coronavirus? Il faut avoir des éléments scientifiques et non pas simplement partager ce que tous les autres partagent sans éléments scientifiques. Il faut avoir une base scientifique par rapport à ça avant de pouvoir supporter de tels arguments. Maintenant, il faudrait aussi savoir que nous ne faisons qu'un travail de santé publique et d'information, que des études ont démontré que la mélanine, ce qui est déjà connu au fait, que la mélanine agit dans la synthèse de la vitamine D. Lorsque le soleil frappe la peau, la mélanine a ce rôle-là de pouvoir synthétiser la vitamine D. Et la vitamine D, ça c'est le scoop plutôt, qui est plutôt du nouveau, que la vitamine D a une influence considérable sur le tempérament, sur l'état d'esprit, sur la pensée humaine de la personne. Et nous ici, nous insistons beaucoup sur la pensée, hein, sur le mood, hein, sur le mood, le mindset, hein, de la personne. La vitamine D agit. Des études qui ont été faites sur la dépression, que beaucoup de personnes qui étaient déprimées, lorsqu'on leur donnait un supplément de vitamine D, elles se sentaient mieux. Donc il y a un rapport entre le soleil, la mélanine, la vitamine D et le manque de dépression, la joie, être bien dans entre guillemets, permettez-moi les jeux de mots un peu faciles, être bien dans sa peau. Vous voyez? Donc ça c'est la science qui le dit. On n'est pas là pour dire que telles sont meilleures que les autres, mais c'est juste la science qui le dit. Et voilà pourquoi c'est ce qu'on ne dit pas souvent. Les populations africaines, quand elles ont tendance à immigrer vers le nord, là où il y a moins de soleil, eh ben elles peuvent difficilement synthétiser la vitamine D. Donc il faut compenser avec des aliments riches en vitamine D. Voilà pourquoi lorsque l'on reste cloîtré dans sa maison et qu'on ne sort pas, qu'on ne prend pas assez de soleil, c'est dangereux. Parce qu'on essaie et qu'on ne prend pas aussi de suppléments alimentaires pour pallier à ce manque de vitamine D, c'est dangereux. Voilà pourquoi on peut se sombrer dans la dépression parce qu'on ne voit pas le soleil. Et voilà pourquoi nous devrions avoir une autre approche lorsque l'on voit ces fresques égyptiennes, ces gravures murales avec des pharaons sous un soleil, sous les rayons solaires, se baignant de ces photons, on se dit « Oh, simplement, voilà des adorateurs de soleil et autres. » Non, c'est de la science aussi. C'est de la science, car ces gens avaient compris que le soleil avait de l'impact sur leur nature humaine. Voilà pourquoi on voit des pharaons, surtout Akhenaton, sous des rayons solaires et ils offrent des plantes. Et ces rayons solaires touchent non pas simplement les humains, mais aussi des plantes. Donc, le phénomène de cette photosynthèse avait-il été déjà compris? Peut-être, qui sait? Mais ils avaient compris cela. Voilà pourquoi dans la philosophie des anciens Égyptiens, sans tomber dans l'idéologie de la race, de la couleur, avaient simplement compris quelque chose de banal. C'était que sous les rayons du soleil, leur peau noircissait et que cette peau qui noircissait avait aussi quelque part de l'influence sur leur tempérament. Car c'est démontré maintenant par la science que lorsque vous synthétisez plus de vitamine D, le soleil touche votre peau avec la mélanine, ça va synthétiser de la vitamine D et ça agit sur le cerveau, ça agit sur le mood, ça agit sur votre personnalité, mais sur votre comportement, sur votre état d'esprit et vous êtes moins déprimé. Et voilà pourquoi les anciens Égyptiens, eux, avaient position en face du soleil, car il y avait le soleil ailé, il y avait avec Amon ou avec Aton, il y a cette relation qui est avec le soleil. Parce qu'ils comprennent que ça agit sur votre bonheur, sur votre état d'esprit. C'est de la science. C'est démontré maintenant et c'est démontrable. C'est de la science. Alors, mais malheureusement, nous allons tout simplement... Évidemment, il y a des gens qui ont tourné ça en des cultes, je ne sais de quel nom, dans certaines civilisations. Mais ce que l'on veut juste démontrer, c'est qu'il y a une science derrière ça. Et malheureusement, aujourd'hui, avec l'idéologie raciste qui a été propagée depuis certains siècles déjà, noircir est devenu un signe d'abomination. Noircir est devenu un signe de laideur. Lorsque vous noircissez en Europe ou en Afrique, on vous dit « Hey, tu as noirci comme ça, pourquoi tu as noirci ?» Et quand quelqu'un devient plus clair de peau, ou quand elle voyage en Occident où il fait moins chaud, on dit « Oh, mais tu es plus beau, tu as clairci. » Ce qu'on ne dit pas, c'est que cette personne qui est allée dans l'hémisphère nord, qui a clairci de peau, a une carence en vitamine D maintenant. Et cette personne a tout intérêt à combler ce manque de vitamine D par de la nourriture, par un apport alimentaire qui lui donnera cette vitamine D. Sommes-nous conscients de ça dans le monde noir et surtout africain? Car beaucoup sont contents lorsqu'ils vont en Europe. Oh, voilà, le teint a changé. Le teint change souvent simplement à cause du soleil. Et les gens pensent toujours que ce sont des produits cosmétiques. Parfois, c'est juste le soleil. On noircit à cause du soleil. Et quand on arrive au nord, on se glorifie. Oh, voilà, on a changé de couleur de peau. Ce n'est pas, c'est la nature. Mais il faut savoir, à titre d'information, qu'il faut, on a souvent des carences en vitamine D, et il faut un apport nutritif pour pallier à la carence. Et ça, on ne sait pas. Mais les anciens, eux, savaient que le soleil noircir, au contraire, avait de l'influence sur votre personnel, sur votre mood, sur votre état d'esprit, car la vitamine D agit sur l'état d'esprit et ça élimine la dépression. Donc noircir est positif. Et voilà pourquoi donc quand on analyse les mots relatifs à la couleur noire, que ce soit en ancienne Égypte et dans les langues bantoues, car les deux sont liés, vous verrez que c'est toujours lié à ce qui est bon. Lorsque l'on prend par exemple la racine Kem, qui va donner Kemet, qui va donner Kom, qui va donner le nom du charbon, le nom du peigne, le nom du cheveu, car le cheveu est noir et bouclé. Le peigne qui est lié aux cheveux va prendre la même racine Kem. Le charbon va prendre cette même racine. Et ces mots-là sont les mêmes mots qu'on va utiliser pour dire entreprendre, pour aller jusqu'au bout. Et en Chiluba, par exemple, en RDC, en RD Congo, le mot Mufika qui signifie noir signifie aussi aller jusqu'au bout. Un peu comme le charbon aussi, un peu tout ce qui est comme la couleur noire, quand le charbon se brûle et il se consume jusqu'au bout. Donc tous les mots qui sont relatifs au charbon, tous les mots qui sont relatifs à la couleur noire, au peigne, aux cheveux, à la nuit, renvoient à ce qui est bien, à ce qui est bon, à ce qui accomplit, à ce qui amène la joie, au travail accompli, à la rémunération. Par exemple, le mot kemet, comme nous avons dit, qui est lié au mot kom, qui est lié au mot kem, donne dans les langues africaines comme dans le lingala, on a le mot kimia. Le mot kimia est le mot avec lequel on appelait aussi l'alchimie. Car l'alchimie, le mot chimie vient du mot kimia. Kimia qui vient de kemet. Kemet qui vient de noir, de la transformation de la matière organique. Il y a un égyptologue qui a écrit là-dessus. Je vous donnerai le nom incessamment. Avant d'arriver à ce nom, donnons d'abord cette petite précision que l'Égypte ancienne qui s'appelait Kemet était appelée Kimia d'après le philosophe grec Plutarque, car cette racine Kemet, dont la racine consonantique est KMT, car les deux E sont des voyelles que l'on rajoute, car les Égyptiens anciens n'utilisaient pas de voyelles connues en tout cas. Donc il les prononçait, mais dans la littérature, dans l'écriture, elles étaient omises. Donc, Plutarque a dit que l'Égypte ancienne Kemet s'appelait Kimia. Et ce nom Kimia, nous allons y revenir. Donc, dans les langues bantoues comme le Lingala, qui sont antérieures à l'ancien égyptien, mais qui sont évidemment connectées, le mot Kimia est plutôt lié à la paix. Pourquoi ce mot paix est utilisé en ancienne Égypte? On sait que ces Bantous, là, ces anciens Éthiopiens qui sont à la base de la civilisation éthiopienne, comme Diodore de Sicile le confirme, étaient appelés irréprochables par le poète grec Homère, par exemple. Dans la Bible, on attribue aux descendants de Cham, l'Africain, les terres les plus paisibles, les plus riches et les plus pacifiques. Si par exemple vous allez dans 1 Chronique 4:40, l'on dit que ces terres étaient riches, paisibles et riches, pacifiques. Pourquoi? Parce que les descendants étaient de Cham. Or Cham, cette racine-là, ou Cam, est lié à Kemet, est relié à Kimia. Nous avons toujours la racine consonantique KM. Le T qu'on ajoute à KMT, c'est pour juste marquer le féminin. Donc le KM est la racine qui nous intéresse ici et qui est toujours liée à la terre noire, à ce qui est africain et ce qui est aussi paisible. Or, l'égyptologue Wallis Budge affirme que le mot alchimie, ou qui donnera plus tard chimie, veut plutôt dire alchimia, vient plutôt de alchimia, et qui veut dire tout simplement la science égyptienne. Pourquoi est-ce que le mot kimia veut dire Égypte d'après le philosophe Plutarque, le philosophe grec Plutarque? Donc nous avons ce mot kimia qui était déjà en Égypte ancienne, qui voulait dire l'Égypte, qui était lié à la population noire, car beaucoup de gens veulent faire des difficultés en disant que Kemet voulait dire la terre noire, le limon noir, alors que c'est la population noire qui est plutôt évoquée. Et nous avons dit que ce mot de kimia, qui existe bien dans la langue égyptienne pour désigner leur pays et pour désigner leur population, est un synonyme de la paix, même dans la littérature juive, car on dit que les descendants de Cam, donc de KM, sont des personnes pacifistes. Et l'on dit donc que kimia, aussi en lingala par exemple, veut tout simplement dire paix, car on sait que les deux langues sont liées. Donc, c'est l'égyptologue Wallis Budge qui dira que alchimie vient de alchimia, kimia qui signifie qui signifie de paix, qui signifie Égypte. Parce que pourquoi kimia signifie paix? Non seulement c'est à cause de la racine consonantique KM qui est liée à tout ce qui est noir, mais il faut se dire que lorsqu'il fait noir, c'est là où l'homme dort, où la femme dort. Et lorsque l'on dort, on ferme les yeux. Et lorsqu'on ferme les yeux, c'est la nuit. Et bien, c'est le noir et on est en paix. Vous voyez, donc tout ça là, un peu, ça contribue à la philosophie de l'ancienne Égypte pour marquer que tout ce qui est noir, tout ce qui est charbonné, tout ce qui brûle, en fait, est bénéfique, amène la paix. Car lorsqu'on dort, lorsqu'on ferme les yeux, on est dans la paix, on est dans le repos. On est dans le Pacifique. D'où nous revenons à ce que nous disions avant par rapport au soleil qui fait noircir la peau, qui crée la vitamine D, et qui change notre façon de penser, il change notre mood. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Et malheureusement, vous pouvez voir comment nous sommes bien loin de ces connaissances où aujourd'hui, lorsque vous noircissez de peau, on vous dit que vous êtes vilain, ou vous êtes vilaine, ou vous êtes laid, ou vous êtes laide. Oh, tu as noirci! C'est le premier réflexe que l'on a. Et lorsqu'on claircit de peau, on a ce réflexe-là de voir ça au contraire comme une chose positive, alors que il nous faut rester dans le scientifique. Nous parlions donc de guerre, mais nous avons dérivé vers autre chose. Mais vous verrez que le cercle va se refermer sur lui-même et la boucle va être bouclée, car tout ce que nous disons est censé et va vers une seule ligne directrice. Nous avons commencé en disant que la guerre, c'est le combat des hommes, mais la paix, c'est le combat des idées. Et nous avons décortiquer la symbolique du noir, de la couleur noire, des populations noires, de la civilisation égypto-nubienne, donc la civilisation africaine, et qu'elle est vraiment symboliquement basée sur la paix. Or, nous savons que qui veut la paix prépare la guerre. Et en période de paix, c'est les échanges d'idées, c'est le combat des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Et dans cette ambiance de persécution, de guerre, sur l'histoire africaine, il nous faut donc avoir cette stratégie pour savoir comment combattre. Car il est vrai que les Africains ont eu une philosophie pacifiste durant leur histoire, liée à leur façon de voir le monde. Nous ne disons pas qu'il n'y a jamais eu de guerre, il y en a eu. La formation de la haute et de la basse Égypte sous Narmer, et peu de temps même avant lui, a été faite avec beaucoup d'escarmouches et de guerres et de conflits qui ont amené plusieurs tribus de nomades, de sédentaires, d'agriculteurs, de pasteurs, de, de pasteurs agricoles, donc il y avait un peu des populations un peu mélangées comme ça, de chasseurs, de pêcheurs. Ces différentes communautés ont eu à avoir un ou des clashs, et par des jeux d'alliances et de combats, nous l'avons déjà dit, cela a contribué à créer la civilisation égyptienne. Et non pas simplement durant le prédynastique qui a précédé donc la première dynastie, mais plus tard, nous verrons aussi avec la chute de l'ancien empire et la création du nouvel empire, la 11e dynastie avec le fameux pharaon Mentotep ou Mungotep, et plusieurs siècles plus tard encore avec les Hyksos qui attaqueront l'Égypte et encore les Assyriens. Donc à plusieurs moments de l'histoire africaine, on a eu ces guerres-là qui ont, comment dire, se sont abattues sur le continent africain. Et nous allons étudier justement les différentes réactions et actions de l'Égypte par rapport à ces différentes menaces et comment elles sont liées à des principes que l'on peut étendre sur la vie quotidienne, sur les stratégies du quotidien que nous avons. Car le génie du livre de Robert Greene, les 33 stratégies de la guerre, qui est disponible, je vous encourage à vous procurer cet ouvrage. Mais ce que nous voulons faire ici, c'est de montrer la dimension africaine de ces choses. Car nous n'avons pas la même philosophie que celle des Occidentaux ou des Asiatiques. Hein, car le livre est vraiment basé sur des stratèges beaucoup plus occidentaux, Alexandre le Grand ou Jules César et d'autres asiatiques. Mais nous allons plus baser nos stratégies sur celles qui sont africaines et on voit les conséquences. Car il y a un chercheur africain-américain, noir-américain, qui s'appelle Robin Walker, qui a écrit plusieurs livres sur le passé africain, de très très bons, des excellents livres. Et il disait que l'un des problèmes des civilisations africaines, si la colonisation a été faite, par exemple l'esclavage, c'est que là il n'y avait pas un accès, la guerre n'avait pas été mise à l'honneur, hein, c'est-à-dire la stratégie de guerre. Quand vous voyez par exemple Rome ou peut-être Carthage, encore Carthage utilisait beaucoup de ses mercenaires. C'est vrai que Carthage était un état commercial. C'était plus une force économique, Carthage. Ils étaient forts en stratégie militaire, mais il faut dire que Carthage employait beaucoup de mercenaires. Il n'y avait pas vraiment une garnison de soldats propres. Ils engageaient beaucoup de mercenaires. Et Rome avait beaucoup plus de... Bien qu'ils avaient aussi des mercenaires à eux, mais ils avaient plus une armée. C'était une république beaucoup plus militaire, je dirais. Et nous savons que ça, c'est lié aussi par rapport aux civilisations qu'on dit indo-européenne, même si le titre n'est pas très bon, car indo, ça veut dire noir, donc caucasienne peut-être, même si le Caucase encore, il y a des choses à dire là-dessus. Européenne, oui, on peut dire européenne, mais Europe, c'est une femme noire et phénicienne, frère, sœur de Cadmos et enfant d'Agénor, si je ne me trompe, ou Cécrops peut-être. Donc, tout ça en fait pour dire, vous voyez de ce que nous voulons dire par là, les Romains, sont ici de ce berceau où c'est un peu trop mythique, on veut un peu mettre des mythes derrière tout ça, où, voilà, ils ont, c'est parce qu'ils ont grandi dans le froid, ils voulaient dans le froid, voilà pourquoi ils ont été beaucoup plus guerriers, parce qu'ils étaient dans, ils avaient des ressources assez maigres, mais il faut aussi se dire que l'Égypte ancienne, les civilisations africaines ont aussi un début qui n'a pas été facile, on veut toujours mettre l'abondance comme source de leur richesse ou de leur soi-disant passivité ou pacifisme. Mais il faut dire que l'environnement africain de l'époque était aussi dur. Il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des inondations. La nature n'a pas été tendre avec ces premiers Africains du Nil confrontés à la nature sauvage, à la lutte des éléments contre eux. Il a fallu très très vite penser à son environnement, penser à se défendre, créer des harpons, chasser des poissons chats géants, dominer la nature, prendre le dessus sur les ressources qui disparaissaient, surtout avec le changement climatique qu'il y a eu vers la fin de l'ancien empire, lorsque Pépi II a malheureusement failli dans sa gestion de l'État. Et bien avant ça, avant la création de l'Égypte, il y a eu un changement climatique aussi qui a fait que beaucoup de populations ont immigré vers les vallées du Nil. Donc, dire que les autres sont toujours développés parce que l'environnement n'était pas tendre avec eux, ont mieux appris de la nature, ce n'est pas correct. Car aussi en Égypte, en Afrique aussi, la nature n'a pas toujours été tendre durant ces millions d'années où l'homme a vécu durant ces milliers d'années. il y a eu des changements climatiques, il y a eu des difficultés, il y a eu un environnement hostile qui a mené l'être humain à s'interroger, à regarder autour de lui et à trouver des solutions par rapport aux problèmes qui l'entouraient. Et c'est ça que nous voulons utiliser ici, cette sagesse de l'adversité, afin de comprendre quels sont les mécanismes que nous pouvons tirer afin de pouvoir résoudre des problèmes au quotidien. Nous ne voulons pas simplement faire de l'histoire pour l'histoire, mais nous voulons que les principes que nous allons tirer du livre de Warburg Green vont nous aider à pouvoir tirer des sagesses du quotidien, inspirées de la réussite, mais aussi des défaites des rois, des reines, des généraux, africains et africaines qui ont eu à combattre sur la terre mère. Et à titre de parenthèse, nous voulons juste rappeler que par rapport au mot kimia, la plupart des certaines sources vont dire que le mot kimia, alchimie ou alchimia est un nom d'origine perse. N'oublions pas que les Perses ont envahi les anciens Égyptiens et que le mot kimia en fait est un mot typiquement africain, atypiquement égyptien, qu'on retrouve même jusqu'au Lingala pour dire paix, et qui est en relation avec la philosophie égyptienne et le contexte historique égyptien. Donc si le mot on le retrouve en perse, c'est parce qu'ils sont venus envahir. Donc le mot chimie, chimie, alchimie, alchimia, vient, est un nom typiquement africain noir. Le décor étant ainsi planté, nous pouvons maintenant aller en guerre. Le premier principe du livre de Warburg Green nous dit que nous devons d'abord identifier l'ennemi. La première loi est identifier d'abord l'ennemi. Et qui est l'ennemi? Il y a cette chanson de Michael Jackson qui est assez profonde. Man in the mirror. L'homme dans le miroir, la personne dans le miroir. Et le refrain de la chanson, si je ne m'abuse, dit que si je veux changer le monde, je dois d'abord commencer par la personne qui est dans le miroir. Et je crois que c'est Gandhi ou quelqu'un d'autre qui disait que celui qui veut changer le monde doit d'abord se changer lui-même, ou peut-être Socrate. Et c'est ça la stratégie de la guerre. C'est d'abord de se rendre compte quelles troupes on a. Qui est-ce qu'on est d'abord avant de penser à comment battre l'ennemi qui est au dehors? Nous devons d'abord faire la guerre à nous-mêmes, à qui nous sommes. Car nous devons d'abord identifier qu'est-ce qui nous handicape, qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui nous empêche d'être les hommes et les femmes que nous devons être. Et cela amène une renaissance. Et dans le cadre de la renaissance, il y a une histoire intéressante en Égypte. Dans le prédynastique, c'est-à-dire il y a plus de 5500 ans, ou disons, pour être plus précis, 3500 ans avant Jésus-Christ, il y avait un rituel étrange que l'on remarquait en Égypte, étrange entre guillemets, c'est que les personnes étaient enterrées dans des jarres gigantesques. Non pas des cercueils comme nous le connaissons maintenant, mais dans des jarres, c'est-à-dire des espèces de grands vases dans lesquels on peut mettre de l'eau, hein, de grands vases où l'on mettait justement le défunt. Et ce vase était enterré. Mais chose étrange, avant d'enterrer, avant d'ensevelir, on brisait le vase et on enterrait. Et certaines théories disent que le mot qu'on utilisait pour définir l'œuf était le même mot qu'on pouvait utiliser pour définir cette espèce de vase. On se rend compte qu'il y avait donc une espèce de rituel où l'on pensait que la personne qui vient d'un œuf, hein, l'ovule de la femme, car ces personnes étaient extrêmement observateurs, ils savaient, car on appelait l'œuf aussi, hein, les ovules de la femme dès l'époque déjà. Et on se rend compte qu'en cassant l'œuf, on libérait justement l'âme de la personne, c'est-à-dire on empêchait l'âme, selon leur croyance, de rester enfouie sous le sol et de pouvoir s'élever vers le ciel, vers les étoiles et peut-être, qui sait, revenir sur la terre. Donc il y a ce concept de renaissance. Et plus tard, on va le revoir avec Osiris, la graine, le grain, le planter, parce que Osiris est vraiment lié au grain, à ce que l'on plante, à la résurrection, à la germination, extrêmement complexe. Nous n'allons pas approfondir là-dessus aujourd'hui. Donc, l'idée de renaissance est vraiment extrêmement, et de résurrection aussi, est extrêmement ancrée dans la pensée égyptienne depuis la nuit des temps. Pour dire que tout commence par soi-même, tout commence par la personne que l'on voit dans le miroir. Car lorsque nous pensons guerre, nous pensons directement, oh voilà, nous devons avoir des armes, nous devons aller conquérir les autres, nous devons aller battre les autres. Mais nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Car comme l'ont dit plusieurs savants ou chercheurs ou philosophes, celui qui sait se maîtriser lui-même vaut mieux que celui qui maîtrise des villes. C'est dit dans les proverbes. Et plus tard, hormis les anciens Égyptiens, il y a eu un noir fameux, mais pas très fameux aussi en même temps, et vous comprendrez pourquoi. Il y a eu un noir qui a fait cette étude sur lui-même, qui est entré en lui-même pour regarder l'homme dans le miroir, pour se dire comment changer l'homme. C'est-à-dire que les plus grandes batailles que nous avons à faire, c'est contre nous-mêmes. Et si nous avons la victoire en nous, eh bien nous aurons la victoire envers les autres. Parce que c'est facile de blâmer le monde, c'est facile de croire que le monde nous doit quelque chose alors qu'il ne nous doit rien et qu'il faut au contraire aller arracher les choses. Eh bien dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un savant qui a fait cette étude sur lui-même et pour à la fin donner ce qu'on appelle le stoïcisme. Les stoïciciens, vous voyez quand on nous dit par exemple il faut affronter une situation avec stoïcisme, il faut être stoïque, c'est-à-dire que quelle que soit la difficulté qui se présente, quelle que soit l'armée qui se présente devant nous, nous avons la force de caractère, le stoïcisme pour y faire face. D'où vient le stoïcisme? Le stoïcisme vient tout simplement de Zénon de Kition. Qui était Zénon de Kition? Zénon de Kition était un phénicien, il était d'origine phénicienne, on dit que c'était un philosophe grec d'origine phénicienne, qui habitait l'île de Chypre, mais qui était allé s'installer en Grèce, fils d'un marchand, car les phéniciens étaient des grands marchands, qui ont aussi donné la naissance à la civilisation de Carthage, au fait. Et il était un grand commerçant, mais dès son plus jeune âge, il était passionné de philosophie. Et son père lui achetait des traités, des ouvrages qu'il lisait. Et il a grandi comme ça, passionné de science, passionné de philosophie. Et jusqu'à l'âge de la vingtaine, il s'est lancé dans le commerce, comme c'est sa famille. Mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, que sa passion, c'était vraiment l'enseignement. Il s'est rendu compte qu'il était un enseignant, qu'il voulait partager le savoir, la science qu'il avait emmagasinée, ses réflexions, il voulait les partager avec d'autres. Étant inspiré par d'autres philosophes avant lui, il décide alors de fonder sa propre école, d'aller en Grèce, où les mouvements philosophiques avaient pignon sur rue, et vers 301 avant Jésus-Christ, il décide de créer son école de stoïcisme, qui était à la base d'abord appelé qui avait le nom de Zénon ou de zénonisme, mais qui va être changé plus tard en stoïcisme. Qui était Zénon de Kition en réalité? Nous avons dit qu'il était d'origine grecque, mais en réalité, lorsque on le décrit, à quoi ressemble-t-il? Il suffit juste de regarder la description de Diogène Laërce, qui décrit Zénon comme un homme très noir de peau et maigre. On le comparait comme à une vigne égyptienne ou à un épi égyptien ou à un arbuste égyptien. Et nous savons déjà qu'à l'époque, les Égyptiens étaient considérés comme noirs. Car quand on regarde les citations des Grecs même de l'époque, comme Hérodote, comme Diodore de Sicile et d'autres savants grecs qui étaient des témoins oculaires des anciens Égyptiens, et on est déjà très très loin dans l'histoire, on n'est même pas dans le prédynastique, on n'est même pas dans les 15 premières dynasties ou les 12, les 10 premières, on est carrément beaucoup plus loin dans l'histoire égyptienne et on considère toujours l'Égypte comme une civilisation noire, comme une population noire. Et les savants comme Diodore de Sicile, comme Aristote je pense et Hérodote ont confirmé que voilà, les anciens Égyptiens ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Diogène Laërce décrit aussi Zénon comme une personne noire. Et c'était tout à fait naturel à l'époque, tout à fait commun, car lorsqu'on regarde l'art et les fresques de la Méditerranée à l'époque, on voit beaucoup de noirs qui existaient, que ce soit dans l'île de Santorin, ou dans la civilisation minoenne, ou là, dans l'art étrusque, ou dans la Rome antique à l'époque, car il y avait un empereur noir qui s'appelle Scipion l'Africain. Donc, les papes noirs, il y en a eu. Gélasius, par exemple. Donc, le mythe selon lequel les civilisations européennes ont rencontré les civilisations africaines en 1492 avec la période des fameux explorateurs est tout à fait faux. C'est un mythe, comme je viens de le dire. Il y avait déjà ce creuset de culture-là dans la Méditerranée. Il y avait déjà des rapports entre ces différentes cultures et ils disent bien, très bien qu'ils ont vu des Noirs. Et même les Portugais qui arrivent en Afrique, ce n'est pas la première fois qu'ils les voient parce qu'il y avait déjà eu l'invasion maure au niveau de l'Europe. Il y avait beaucoup de Noirs qui vivaient déjà au Portugal et qui étaient déjà avaient atteint des statuts de chevaliers. Non pas que, puisqu'ils avaient envahi, ils avaient colonisé ces territoires-là. Ils vivaient là, il y avait déjà des chevaliers qui étaient là. Et même lorsque le pouvoir a basculé et que l'Europe a pris le dessus sur les Africains et les Arabes qui étaient en Europe, au Portugal, on retrouvait toujours des Noirs aussi, chevaliers qui vivaient en communauté avec les populations qui étaient en place. Jusqu'à ce qu'il y ait eu vraiment la reconquiste à 100% et où on a carrément décidé, les Européens ont carrément décidé de bannir tous les Arabes et les Juifs et les Arabes musulmans ou les morts qui étaient là. C'est là où les populations noires ont été évacuées de ces territoires-là. Mais en tout cas, la Méditerranée a été un creuset de culture depuis belle lurette. Il y avait déjà des populations noires et des échanges entre l'Europe et l'Afrique noire. Et voilà pourquoi les philosophes grecs de l'époque n'ont pas de peine à décrire Zénon comme un noir. Et nous savons que nous avons dit qu'il vient de la Phénicie. La Phénicie qui est entre la Palestine et le Liban. Nous savons que ces territoires-là ont été colonisés ou dominés par les anciens Égyptiens, déjà vers le prédynastique et dans la période dynastique. Avec Narmer ou Oraha, le pharaon Oraha qui a succédé à Narmer, on trouve déjà dans le Sinaï et dans ces régions-là des traces égyptiennes avec Toutmosis III dans la 18e dynastie. C'est une province, Canaan est une province égyptienne, africaine. Et s'il en faut se référer au texte biblique, lorsqu'on regarde la descendance du personnage Cham, oh bien, on voit que Canaan, la Phénicie, est placée sous la tutelle, sous la descendance ethnique, génétique des populations africaines, Kem, qui va donner comme, on en a déjà parlé, de toutes les répercussions qu'il y a par rapport à ce nom-là. Donc, Zénon de Kiton est ce personnage-là, donc, qui va se mettre à développer le stoïcisme. Se faire la guerre à soi, c'est faire la guerre à ses émotions négatives. Nous avons déjà parlé ici de l'intelligence émotionnelle. Et nous ne voulons pas tomber ici dans les caricatures. Les Africains sont super, ultra émotionnels, tout ça. Toute créature humaine est émotionnelle. Toute créature humaine réagit d'abord par l'émotion. C'est tout à fait naturel. Cependant, il faut maintenant apprendre à maîtriser ses émotions et à pouvoir utiliser l'intelligence émotionnelle pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc, il nous faut quitter ce débat de bas étage où nous sommes simplement à dire nous sommes dans l'émotion, dans l'émotion, dans l'émotion. Non, nous devons arriver au niveau où nous parlons d'intelligence émotionnelle, où nous parlons de stoïcisme, afin de pouvoir avancer et de pouvoir gagner déjà cette bataille que nous avons contre nous-mêmes. Car nous l'avons dit une fois dans une autre précédente émission, que nous étions considérés comme les plus fameux, comme les plus, je ne sais pas, je pourrais dire intelligents, comme les plus, comment dire, exemplaires. Et maintenant, nous sommes dans la liste des pays les plus corrompus. Mais j'avais déjà dit à l'époque, où est la liste des pays les plus corrupteurs? Ça, on ne veut pas en parler. C'est une image que l'on veut tracer sur nous. Donc, nous devons récupérer notre image, non pas pour être bien vu des autres, mais d'abord d'être bien vu de nous-mêmes quand nous nous regardons dans le miroir. Et nous avons adressé cette question dès le début, en disant que lorsqu'on se voit noir, on se voit négatif. Quand on noircit par le soleil, on se voit négatif. Comme un texte qui dit, voilà, je suis noir, c'est le soleil, mais ben, mais. Et on dit, mais. Est-ce que c'est le mais qui doit être utilisé? C'est pas possible, parce qu'à l'époque, les gens ne considéraient pas qu'être noir était mauvais dans l'Antiquité. On dit, elle dit, dans ça, elle dit, la Tsulamite, si vous connaissez, je suis noir, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est une antithèse par rapport au mot Kem, tel qu'il a été ingénié par les penseurs africains, de sorte que le soleil qui nous touche, produit de la vitamine D, produit de la beauté, produit de l'intelligence. Voilà pourquoi la couleur noire est le produit et la couleur de la renaissance. Voilà pourquoi Osiris ou Amon a la couleur extrêmement noire. Car le noir, c'est la couleur de la renaissance. Noir, c'est ce qui est positif, qui ce qui amène à l'entrepreneuriat. Donc, ce verse, quand on nous dit noir mais belle, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la pensée primordiale qu'il y a à l'époque. Donc, nous devons changer cette image que nous avons de nous-mêmes. Et nous devons adopter ce point de vue plutôt stoïque, car le stoïcisme nous invite plutôt à aller vers le bonheur, hein, vers la bénédiction pour tout être humain et accepter le moment présent, hein, en acceptant pas plutôt d'être contrôlé par le désir et par le plaisir ou par la peur ou par la peine, mais en utilisant son esprit pour comprendre le monde qui nous entoure et la nature qui nous entoure, l'univers qui nous entoure, et en travaillant ensemble afin de pouvoir traiter les autres avec justice et avec honnêteté. C'est ça, en fait, la base du stoïcisme de Zénon. Donc, nous avons ici un homme noir, africain, même s'il était chypriote ou phénicien, mais du moins, nous savons que les études qu'il a faites était ancré dans la pensée égyptienne, car le peu de philosophie qu'il lisait déjà à l'époque là venait directement de la vallée du Nil. Comme nous l'avons dit, Saint Clément a dit qu'un livre de 1000 pages ne suffirait pas pour dénoncer comment ses compatriotes ont usé et abusé des connaissances égyptiennes. Les citations sont légion, on sait qu'ils sont tous passés par là, les Socrate, les Platon et j'en passe des meilleurs, les Pythagore de Milet, je crois, Pythagore, les Euclides, tous sont passés là-bas, ont étudié la géométrie, les mathématiques, la philosophie et ont rapporté ces choses au niveau de la Grèce. Et nous connaissons les rapports intimes que nous avons dit entre la Phénicie de l'époque et l'ancienne Égypte. Et dans le livre même Black Athéna, c'est extrêmement bien expliqué les relations qu'il y avait entre la Grèce antique et l'Égypte, car même les premières cités de la Grèce ont des noms typiquement africains. Pourquoi est-ce qu'on trouve Thèbes en Grèce? Pourquoi il y a une ville qui s'appelle Thèbes en Grèce? Eh bien, c'est parce que simplement des explorateurs africains ont quitté l'Afrique, l'Égypte, pour aller là-bas, s'établir là-bas et créer des cités. Ça, c'est bien détaillé dans le livre de Martin Bernal, Black Athéna, et d'autres ouvrages. Par exemple, le livre de Jean-Philippe Omotunde, Les racines africaines de la civilisation européenne. Il y a beaucoup de citations historiques d'auteurs qui parlent de cette présence africaine dans les régions européennes déjà. Notre personnage, donc, ou notre Zénon de Kition va, car il a existé, et donc c'est lui qui va écrire abondamment et développer le concept de logique. Donc lorsqu'on va nous dire que la raison est hélène et l'émotion est nègre, que la raison a été développée par les Grecs, c'est complètement divagué, car non seulement le personnage est noir déjà, et de deux, nous savons que la philosophie qui s'est imprégnée venait directement d'Égypte. Il a écrit abondamment sur la logique, il a écrit sur l'éthique personnelle. L'éthique personnelle, c'est quelque chose sur lequel nous devons revenir, car le stoïcisme est d'abord une philosophie de l'éthique personnelle, de l'éthique personnelle, et nous savons que l'éthique, c'est sûr, ce qui est juste, ce qui est a trait à la morale, à ce qui est bon et à ce qui est mal. Donc nous devons revenir à cette notion d'éthique, à ce qui est bien, à ce qui est mal. Donc faire la guerre à nous-mêmes d'abord, revenir à ce qui est bien et éviter ce qui est mal. Et puisque nous parlons de ce sujet par rapport au bien et au mal, je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Accrochez-vous. Lorsqu'on parle de conscience, la conscience tout simplement définie est la capacité de pouvoir juger de ce qui est bien et mal, de pouvoir agir sur ce qui est bien et mal. Et lorsque l'on nous parle dans les récits bibliques de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quel était cet arbre-là? Quel était ce fruit? Quelle était cette plante? Un débat qui donne des maux de tête aux théologiens, mais qu'une fois encore, l'on ne peut comprendre que lorsque l'on s'intéresse aux langues africaines et lorsque l'on comprend le paradigme africain. Nous parlons de guerre ici, Mais ce livre de Robert Greene, comme nous l'avons dit, nous va nous servir simplement de prétexte pour pouvoir explorer encore mieux l'histoire africaine. Et cela étant dit, nous savons que il y a eu une grande guerre entre le sud et le nord de l'Afrique, hein, pendant le prédynastique. Et pendant cette guerre-là, plusieurs communautés se sont affrontées, comme nous l'avons dit précédemment. Mais ce qui étonne ou interpelle, c'est la naissance de la civilisation égyptienne, qui s'est faite pendant de longs moments, de longues périodes. Il ne faut pas dire que c'est, comme beaucoup de gens veulent dire, que tout est apparu en une nuit. Non, c'était une longue gestation de plusieurs milliers d'années. Il y a eu des populations africaines qui étaient là pendant des milliers et des milliers d'années. Et ces différents échanges-là ont construit les différentes civilisations du Nil pour pouvoir émerger dans un état unifié qu'est l'Égypte ancienne. Mais d'où venaient les connaissances égyptiennes? D'où venait cette cosmogonie? D'où venait cette vision du monde? D'où venait cette différente approche de l'art? La réponse est dans cette question par rapport au Jardin d'Éden. En effet, lorsque nous analysons la préhistoire égyptienne, nous regardons par exemple les grottes du Tassili en Algérie et le Sahara, qui était très très vert à l'époque, hein, il faut se le dire, il n'était pas sec comme nous le connaissons maintenant. Nous pouvons voir que dans ces vieilles tribus qui existaient dans les grottes du Tassili ou dans les rochers du Tassili, qui ont laissé des peintures rupestres et murales, on peut bien voir des chamans qui sont dessinés là-dessus. Et parmi ces chamans, il y a ce qu'on appelle l'homme aux champignons. Et beaucoup d'auteurs ont établi qu'il y avait preuve de personnages, de chamans qui utilisaient des substances, des psychotropes, pour avoir des expériences psychédéliques, c'est-à-dire prendre des substances qui changent, qui altèrent ou modifient l'humeur ou la pensée des gens, afin de pouvoir être en extase ou pouvoir élever leur état de conscience. C'est un mot clé. Car nous savons que par exemple dans l'hindouisme ou le yoga, on nous parle de Kundalini, pour ceux qui sont familiers à cela. Et la Kundalini, c'est une stratégie ou une technique qui permet au fait d'élever son état de conscience. Je reviens encore sur ce mot-là. Or, cet état de conscience est aussi établi bien avant le yoga et l'hindouisme en Égypte, car on connaît les rapports aussi qu'il y avait entre ces deux peuples-là. En Égypte ancienne, on a Thoth, qui est le dieu de la connaissance et de la sagesse, qui a la tête d'un ibis et un corps d'homme, ou encore qui est représenté par un babouin. Et nous avons aussi Osiris, qui a un sceptre. Donc il y a un sceptre pour Thoth et un sceptre pour Isis. Les deux ont des sceptres qui se caractérisent par deux serpents enroulés. Et ces deux serpents enroulés sont l'image de la Kundalini en hindouisme et en yoga, qui montre en fait l'état de la conscience qui s'élève. On arrive à la conscience, on sait voir c'est quoi le bien et le mal. On arrive à une connaissance élevée. Or, dans le récit d'Adam et Ève, on nous dit bien que c'est Ève qui mange la pomme. C'est pas la pomme en fait, c'est ce que on nous a toujours dit. Mange le fruit ou le végétal en premier. Elle a la conscience donc élevée. Elle a la connaissance du bien et du mal, car la conscience, c'est simplement la conscience du bien et du mal. Et ensuite, elle donne à son homme, Adam. Et dans la Kundalini, on dit que élever sa conscience, c'est élever son énergie féminine. Ça, la Kundalini, c'est élever son énergie féminine. Donc la femme d'abord, comme dans les récits bibliques. Et nous avons dit que pendant le prédynastique, il y avait donc des personnes ou des tribus au niveau des grottes du Tassili qui utilisaient des champignons, car l'homme aux champignons, c'est le dessin d'un homme ou d'une femme, peut-être, qui porte un casque d'une abeille, hein, et c'est lié vraiment à un culte de l'abeille. On sait que le symbole de l'abeille était le symbole de la haute Égypte, et plus tard aussi dans le royaume Congo, l'abeille va prendre un symbole important. Cette abeille, cet homme-là, habillé comme une abeille, avec une tête, avec un masque d'abeille, a des champignons tout autour. Et beaucoup d'experts ont établi qu'il y avait déjà utilisation de psychotropes, de substances qui pouvaient altérer, changer, modifier l'humeur ou l'état de conscience, de conception de l'univers chez ces personnes-là. Et dans le fin fond du sud, avec les populations qui sont montées, ce qu'on appelle les Mesniti ou les Chemsu-Or qui sont montées, on en a déjà parlé, on voit aussi qu'il y a de tels cultes, car nous avons pu lier ça à ce qui se passe chez les Maï-Maï, par exemple, présentement, avec l'énergie du lion, hein, le lion du zoo, le lion des eaux, le félin des eaux, des rituels qui mettre les gens aussi en extase, hein, ça existe encore jusqu'à aujourd'hui, afin de changer la conscience, afin de passer à un autre tas de perception du monde. Eh bien, tout simplement, lorsque l'on dit que Adam et Ève ont mangé d'un végétal qui a altéré, changé leur conscience, eh bien, ça veut tout simplement dire qu'ils ont pris une substance végétale, un psychotrope, pour avoir une expérience psychédélique afin de changer leur conscience. Donc, lorsqu'ils connaissent le bien et le mal, ils ont pris un psychotrope, ils ont pris une substance végétale qui leur a permis, qui a changé leur compréhension du monde. C'est ce que ça veut dire. Parce que lorsque l'on veut rester encore avec des compréhensions comme ils ont mangé un fruit, ou ils ont mangé une mangue, ou ils ont mangé une figue, ça, on est vraiment dans la version pour enfants, hein. On est vraiment dans le cas de Alice au pays des merveilles ou de Blanche-Neige. Je veux pas froisser des gens, mais c'est vraiment primaire, hein. Il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre que la seule plante qui permet à un être humain de changer son état de conscience, d'altérer sa conscience, est juste simplement un psychotrope. C'est tout à fait compréhensible. Et lorsque l'on comprend ce que l'on dit dans, par exemple, le yoga ou la kundalini, où on dit que ces gens qui font ces pratiques-là pour élever leur état de conscience, comme ils le disent, passent par des psychotropes. Ils le font par deux manières, soit par méditation, soit en utilisant ce genre de drogue, s'il faut le dire, excusez-moi d'utiliser ce genre de substances là. Et ces substances là sont souvent végétales, comme les champignons. Et vous verrez que dans l'ancien temps, dans le prédynastique par exemple, on peut voir qu'il y a ce genre de personnages là qui ont des champignons et qui ont représenté la réalité de manière assez troublante, parce qu'on va voir des personnages qui dessinent dans ces grottes là qui n'ont rien d'humain. Donc on peut se rendre compte que la pensée est altérée, est changée et modifie la perception de l'environnement. Même esprit ou même histoire, quand on parle d'Adam et Ève, ils prennent cette substance-là pour changer leur état de conscience. Et voilà pourquoi ils sortent du jardin d'Éden pour aller conquérir le monde où ils sont chassés. Alors, on ne va pas dire ici ou débattre sur le fait que si Adam et Ève ont existé ou pas, mais ce que l'on veut dire, que ce sont aussi des allégories pour nous montrer des populations qui ont utilisé certaines substances pour pouvoir élever leur état de conscience et de pouvoir, au fait, créer ou fabriquer la civilisation telle qu'on la connaît. Car si il faut comparer les textes bibliques, par exemple, avec ce qui se passe dans Ézéchiel ou le livre de l'Apocalypse, avec le fait qu'on voit quatre êtres vivants, on a déjà parlé, tête d'aigle, corps humain, tête de félin, corps humain, et je précise que tête humaine, corps de félin, est très ancré dans le rite de la panthère, rite que l'on va retrouver aussi en Amérique du Sud, parce qu'on a là-bas le jaguar, le mythe du jaguar, donc le prêtre qui porte la peau de jaguar et qui utilise aussi des psychotropes avec les Aztèques ou du moins les Olmèques. On a aussi ce rite-là où on va accéder au divin grâce à des psychotropes, grâce à des champignons, et on va acquérir la peau des léopards. Les mêmes connexions sont aussi retrouvées en Amérique où on a les Olmèques. Alors, et on sait qu'il y a les rapports qu'il y a entre l'Amérique et l'Afrique avec le livre, par exemple, « They Came Before Columbus » de Ivan Van Sertima. C'est-à-dire, ils y étaient avant Colomb, qui montre les différents rapports qu'il y avait entre l'Afrique et l'Amérique. Encore une fois, je dis, nous devons cesser avec ce mythe-là où l'Amérique a simplement été découverte par Christophe Colomb et que les premiers rapports contacts ont été faits à cette époque-là. C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, pour revenir à ce que nous parlions de conscience ici, et d'Adam et Ève, ou du fameux fruit défendu. Ce fameux fruit défendu, justement, c'est ce végétal-là qui amène à cette expérience-là, comment dire, astrale, si je peux dire ça comme ça. Donc, le fait que les anciens Égyptiens découvrent le divin, ou du moins expérimentent le divin, ou expérimentent des choses paranormales, c'est-à-dire où on se rend compte qu'on voit, dès le prédynastique, les gens avec des têtes des masques de faucon, où on rend compte qu'il y a le culte du lion, du félin qui va commencer, de l'aigle, hein, avec les mesnitis qui montrent, hein, du bélier, hein, avec Noum, et de l'homme, par exemple, le dieu à tête humaine, avec, par exemple, celui qu'on appelle l'une des premières divinités africaines, c'est-à-dire Mine, c'est-à-dire, donc vous avez Mine, tête d'homme, corps d'homme, extrêmement noir aussi, tête de lion, corps d'homme, c'est-à-dire que même Horus se représente comme ça, mais on a aussi les Sekhmet, les basse-têtes, et Narmer, hein, le corps, le lion, l'homme panthère, hein, tête de bélier, hein, car le pharaon aussi est représenté avec une tête de cornes de bélier, Pnoum par exemple, et par exemple tête de faucon, hein, Mungu, et tout cela, les quatre êtres vivants sont représentés bibliquement, et dans l'ancienne Égypte, très tôt, ils ont cette connaissance du divin. Comment ils en sont arrivés là? Eh bien, c'est une allégorie qu'on nous raconte dans les livres de la Genèse, avec ces deux êtres humains qui représentent des populations qui ont accès au divin par ces substances-là. C'est ce que ça veut dire. Et on peut comprendre ça que lorsque l'on regarde ce qui s'est passé dans le prédynastique égyptien, voir comment les peuples se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pour accéder à ces connaissances-là et pouvoir design ou définir le monde qui les entourait, les cultes qui les entouraient. Cela se faisait par l'entremise de ceux qu'ils prenaient dans les rites, dans les rituels. Car jusqu'à présent, lorsqu'on regarde je peux pas malheureusement entrer en détail là-dessus, et nous arrivons vers la fin. Jusqu'à présent, on regarde dans les rites, les différents rites africains qui se font dans certaines tribus, il y a ces substances qui sont utilisées. Et c'est ça qui aura permis aux gens d'expérimenter, par exemple, ce qu'on appelle les NDE, hein, les Near Death Experience, hein, expérience de mort imminente, ou encore des rêves éveillés. Ce sont des choses qui permettent d'entrer dans la créativité. Et je me rappelle, j'avais lu un livre d'économie écrit par un Français qui parlait de créativité, où il parlait d'expérience de rêve éveillé comme manière de développer la créativité. Il y a des groupes comme ça, de personnes qui font des expériences de rêve éveillé, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de semi-conscience et d'inconscience, et cela vous permet de libérer votre esprit, entre guillemets, hein, on veut pas jouer au gourou ici, et qui vous permet d'accéder à des idées nouvelles. Hein. Jusqu'à présent, il y a des gens qui les font, des innovateurs et le reste. Et Steve Jobs, par exemple, qui était très fasciné par la culture de l'hindouisme, donc le yoga et tout ce qui vous en suit, a beaucoup pris du LSD. Et on sait que les gens prennent du LSD, donc ces substances-là qui changent la perception, pour être beaucoup plus créatifs et tout le reste. Et les gens le font dans la Kundalini, dans le yoga et dans l'hindouisme. Donc, vous voyez la corrélation qu'il y a entre tout ça. Donc, oui, Adam et Ève ont touché à des choses qu'il fallait pas toucher. Vous connaissez le mot, j'ai pas envie de le prononcer ici. Un joint. Bref, donc, ils ont pris des substances illicites, voilà, ce qui pouvait développer leur perception. Donc, la conscience, le bien et le mal, la conscience qu'on retrouve dans le Kundalini, qu'on retrouve dans le yoga pour élever la conscience, qui a permis, au fait, aux gens, des premiers temps, au fait, de pouvoir, comment dire, avoir ces expériences de mort imminente. Vous voyez, vous connaissez ces histoires de gens qui disent que j'ai failli mourir et je suis parti de l'autre côté, j'ai vu ce qu'il y avait, je suis revenu. C'est tout ça, en fait, cette expérience, tout ça là, qui a fait que les anciens égyptiens ont pu créer leur corpus dès le début. Donc voilà comment ces choses ont commencé. C'est ça le secret, aussi l'un des secrets du moins, de la civilisation égyptienne dès le départ. Comment est-ce qu'ils ont construit leur corpus, d'où venait leur science, leur connaissance. Évidemment, à côté de ça, il y avait l'expérimentation aussi, l'observation de ce qu'on voit autour de la nature, le travail, les calculs, tout a été, c'est la combinaison de tout ça, l'échange des idées, l'expérimentation, c'est tout ça qui a au fait créé la civilisation égyptienne et qui a permis à ces gens en tout cas ceux qui venaient du sud, de remporter la guerre et de faire la paix ensuite. Donc, c'est cette étude sur soi-même, cette interrogation. Qu'on soit bien clair, hein, je n'invite pas les gens, on encourage les gens à aller prendre ce genre de substances. Hein. On explique juste l'histoire, comment elle s'est déroulée. Donc, le travail que l'on doit faire sur soi maintenant, c'est de se regarder dans le miroir et de se dire, au fait, comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut régler une addiction? Parce qu'on ne veut pas, comme j'ai dit, on n'encourage pas les gens à aller prendre des substances pour tomber dans des addictions et être complètement inutile à la société. On ne sait pas comment ces gens prenaient ces choses, comment c'était dosé. Et encore, comme on dit, des choses comme de la morphine, tout cela, il y a des, entre guillemets, des substances qu'on prend qui sont dosées quand c'est étudié et dosé. Ça, des vertus thérapeutiques, on le sait. Hein? Ces genres de choses, quand on les prend bien dosées par des médecins, par des experts, ça a des vertus thérapeutique, et non pas qu'on le prend en désordre, sans contrôle, et on tombe dans l'addiction. C'est ça le danger. Donc, il ne faut pas se dire, ah, nos ancêtres le faisaient, moi aussi je veux le faire. Non. Les choses doivent être mesurées, doivent être étudiées par les experts. C'est comme ça qu'on accède à la connaissance et surtout à la santé. Donc, notre première loi ici de Robert Greene, c'était de découvrir, identifier d'abord vos ennemis. Qui sont vos ennemis? Et ensuite, vous pouvez attaquer. Qui est l'ennemi en vous? Quand vous décrivez, vous savez qui est l'ennemi en vous, comment vous pouvez l'attaquer en agissant avec stoïcisme, en vous rappelant qui est Zénon, en vous rappelant votre identité, que vous êtes noir, parce que c'est une bénédiction et non pas une malédiction, eh bien, vous pouvez aller de l'avant. Donc, on se retrouvera bientôt plus tard avec la deuxième loi. On essaiera peut-être de faire plusieurs lois en un coup, sinon ça nous prendra trop de temps. 33 lois et 33 émissions, c'est difficile. Donc, merci beaucoup. On attend vos messages. Envoyez-moi des messages audio, des questions. Et on pourra les faire apparaître si vous utilisez l'application ici. Merci beaucoup. Bye bye.